Liam, on va reprendre notre personnage de Samuel. Alors, vous avez peut-être perdu un petit peu le fil. Non, ça va? Il faut se replonger à chaque fois un petit peu dedans, mais c'est bien. Je crois que pour faire un petit résumé de l'endroit où on en était, on avait vu comment Samuel avait été appelé par Dieu alors qu'il était en train de garder le temple, en quelque sorte, hein, c'était lui qui était responsable des lampes, des portes, etc. Et au milieu de la nuit, Dieu l'avait appelé. Mais évidemment, la Bible dit, il ne connaissait pas la voix de Dieu, et il l'a pas reconnu, et il a pensé que c'était Élie qui l'appelait. Donc, il se lève, il va voir ce qui se passe, as-tu besoin de quelque chose? Élie, bien sûr, mais non, on va te recoucher. Ce qui est surprenant, on avait souligné, c'est qu'il n'hésite pas à revenir une deuxième fois quand il entend la voix de Dieu, malgré le fait qu'Élie l'avait renvoyé. J'admire sa persévérance. Moi, j'ai horreur de me lever la nuit. Et si jamais les chiens me dérangent deux fois, c'est déjà une catastrophe. Mais voilà, lui, il est revenu une deuxième fois, sans rouspéter, sans rien dire. As-tu besoin de quelque chose? Et Élie lui dit non, tu peux retourner te coucher, j'ai besoin de rien. Et la troisième fois, alors, Élie finit par comprendre. Il se dit non, là, c'est pas possible, il n'a pas des voix. C'est visiblement Dieu qui lui parle. Et c'était étonnant parce que, vous savez, on avait souligné le fatalisme d'Élie, sa passivité, mais il sait reconnaître quand Dieu parle. Et bon, c'est déjà un bon point pour lui. Et ce qui est aussi surprenant, c'est qu'il sait, en fait, Élie, c'est ça qui est embêtant avec lui, il sait plein de choses. Mais il arrive à mettre en pratique. Vraiment, ça ressemble un peu à nous, ça. Il sait pas mal de choses. Que Dieu parle, il va lui dire, écoute, Samuel, maintenant, si tu entends de nouveau cette voix, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc, Samuel va se recoucher. Et on avait souligné une chose importante, c'est que si on n'entend pas la voix de Dieu, si on comprend pas ce qu'il nous dit du premier coup, il nous retombe pas dessus à pieds joints. Parfois, moi, j'ai vu souvent hein, des chrétiens qui disent « Oh, mais si je comprends pas ce que Dieu veut de moi, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. » Mais non, c'est pas grave. Si vous avez de la bonne volonté, si vous faites exprès, c'est différent. Mais si on a de la bonne volonté, peu importe si Dieu doit vous rappeler deux fois, trois fois, 10 fois même. J'ai lu des témoignages de missionnaires que Dieu a appelés pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, mais il les a pas tapés pour ça, ils n'ont pas eu tout un tas de malheurs. Simplement, Dieu a répété ses appels patiemment jusqu'à ce que la personne comprenne, entende et comprenne. Et je crois que c'est rassurant. On a parlé de la bienveillance de Dieu. Et souvent, le diable essaie de nous faire croire que Dieu n'est pas bienveillant. Ah, si t'écoutes pas ce que Dieu te dit, tu vas voir ce que tu vas prendre. C'est pas vrai. Dieu est patient, sauf si on y met vraiment de la mauvaise volonté. Là, il doit traiter autre chose. Mais s'il n'y a pas de mauvaise volonté, il est patient et il va nous rappeler. Deux fois, 10 fois, 20 fois s'il le faut. Tant qu'il voit qu'on n'a pas compris, il va recommencer. Avec patience. Et moi, ça me rassure, parce que c'est vrai que parfois, c'est pas évident, on est humain, hein, on sait pas très bien reconnaître la voix de Dieu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille? Eh bien, tu dis, Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, le mot écouter, c'est important, parce que vous avez remarqué, les fils d'Élie n'écoutèrent pas. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Je l'enseigne aussi à l'école, la prière juive, comme nous on a le Notre Père, la prière juive, c'est le schéma Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire? Écoute Israël. Ah, il semblerait que le point fondamental que Dieu attend de nous, c'est l'écoute. Écoute Israël. Depuis sa relation avec Abraham, c'est écoute. Et la suite, c'est L'Éternel, ton Dieu, est un, etc. On enseigne ça à nos enfants quand on leur fait les comparaisons des différentes religions. C'est l'importance de l'écoute. Alors, quand on réfléchit un peu, c'est pas facile d'écouter. Pas facile d'écouter déjà des humains, mais c'est encore plus difficile d'écouter Dieu. Parce qu'il faut attendre. Et puis, on n'aime pas attendre. On aime bien prier, lire notre Bible, on boucle et on s'en va. Attendre, ça suppose un temps de méditation, ça suppose du temps, un effort, une certaine humilité aussi. C'est pas simple, il faut prendre du temps. Et vous rappelez les enfants d'Israël quand Moïse était sur la montagne? Ah oh bon, on sait même pas s'il va revenir. Qu'est-ce qu'il fait? On voulait pas attendre. Ils étaient pas prêts à attendre qu'ils reviennent pour savoir ce qu'il fallait faire. Et ils ont fait un veau d'or. Et combien de fois, nous, on a cette tendance? Bon, ben, on n'attend pas et puis on fait notre idée. Pour écouter Dieu, j'ai réfléchi un peu, hein, pour moi-même, hein. Faut d'abord faire taire tous les bruits parasites. Je sais pas si ça, c'est pareil pour vous, mais dès qu'on se met en prière, même si on est décidé à pas répondre au téléphone et pas se laisser distraire, eh ben, c'est dans les pensées. Oh, mais j'ai oublié de faire ça. Oh, faut absolument que j'ajoute ça sur ma liste de courses. J'ai oublié ça. C'est marrant, d'un seul coup, tout nous revient. La mémoire revient d'un seul coup. Tout ce qu'on a oublié. C'est pas un hasard, hein. C'est pas un hasard, je vois que je suis pas la seule. Des pasteurs qui encouragent à avoir un petit carnet et vite noter tout ce qui nous vient à la tête pour s'en débarrasser et pour pouvoir reprendre la prière. C'est vrai. Donc, faire taire les bruits parasites du monde. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, c'est lourd maintenant ce qu'on entend. Enfin, hier, je me suis forcée à écouter un petit peu ce qui se passe sur le mariage pour tous, etc., les contestations et tout. C'est lourd. Cette honnêteté, ces préjugés, oh là 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 là, c'est lourd. Faire taire les bruits parasites. Et puis, pour écouter, il faut aussi faire taire les religiosités. Alors, il faut certaines conditions pour écouter Dieu, et puis une sorte d'examen de conscience, on cherche la perfection. Alors, on prend des choses qui sont bonnes, mais on les pousse aux extrêmes. Et puis, on peut devenir, et c'est le danger pour les chrétiens aussi, de devenir pharisien. Tous les petits détails, le perfectionnisme de la vie chrétienne, etc. Et ça, c'est un obstacle à l'écoute de Dieu. Parce que je vais m'imposer certaines choses qui sont pas forcément demandées par Dieu. Et on peut devenir pharisien. Les pharisiens n'ont jamais réussi à écouter Jésus. Ils ont entendu les paroles, ils ont entendu, mais ils ont jamais écouté. Ça n'a pas fait de chemin vers leur cœur. Et Jésus, les seules personnes avec qui il a eu des problèmes, c'était les pharisiens, c'était les gens religieux. Donc attention à la religiosité, qui nous guette toujours, hein, dans tout un tas de domaines. Nos habitudes, faut laisser tomber pour pouvoir écouter Dieu, voir les choses à sa manière. Notre chair, notre égoïsme, hein, on a très vite fait de dire « moi je pense ». Mais c'est pas ça. Écouter Dieu, c'est « et toi Seigneur, qu'est-ce que tu penses ?» Et franchement, quand on lit ce verset, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, etc. Ah, ben c'est vrai. Et c'est très difficile de quitter le rail de nos pensées pour aller sur le rail des pensées de Dieu. C'est difficile. Il faut vraiment demander l'aide de Dieu. Et pour écouter Dieu, il faut faire ça. Il faut prendre le wagon là qui est sur les rails et le mettre sur l'autre rail. Et c'est pas évident. Notre égoïsme, nos habitudes de pensée. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de notre pensée. Il n'y a pas d'autre. Pour écouter Dieu, il faut accepter que nos façons sont renouvelées par le Saint-Esprit. Et puis, il y a le diable quand même. Je l'ai mis en dernier parce que souvent, on a tendance à le mettre en premier. Qui a toujours cette petite voix, au moment où on veut écouter Dieu, qui va semer le doute. Mais de toute façon, t'es pas assez bien. Puis pourquoi le Seigneur te parlerait à toi? Pour qui tu te prends? Et puis, oui, de toute façon, la Bible dit ça, mais tu sais qu'en fait, voilà, Dieu a-t-il vraiment dit? Toujours le même discours. Et du coup, bah, pour écouter Dieu, quand on a tout ça en face de soi, la cause semble désespérée. Mais on y arrive. Il faut vraiment demander la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi à t'écouter. Mais je reconnais que c'est pas simple. On a tous du mal avec ça. Hein. Et je crois qu'on peut être chrétien depuis 50 ans ou 3 jours. Encore quelquefois, il y a une grâce spéciale pour les nouveaux. Mais c'est pas facile d'écouter Dieu. Donc, l'importance, c'est l'écoute. Et Élie l'a bien reconnu. Il lui dit, tu vas répondre, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est ce que moi-même, en préparant ça, je me dis, ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est vraiment chaque fois que je prie, avoir un temps pour dire, Seigneur, maintenant, j'écoute. Parle, ton serviteur écoute. C'est pas simple. On parle toujours de prier, mais on parle pas assez d'écouter. Et puis, Dieu va parler à Samuel. Il va lui dire, voilà ce que je vais faire en Israël. Il a un message très, très fort, même assez dur. Je vais faire quelque chose en Israël. Quiconque en entendra parler en restera abasourdi. En ce jour-là, je réaliserai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison du début à la fin. Je lui annonce que je juge sa maison pour toujours à cause de la faute qu'il connaît. Et ça, c'est important. Dieu ne va pas juger pour des choses qu'on connaît pas. Tu es juste. Ses fils ont méprisé Dieu, il ne les a pas repris. C'est pourquoi je jure en ce qui concerne la maison d'Élie qu'aucune expiation ne sera jamais faite pour la faute de la maison d'Élie, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Le message était court, violent. Le pauvre Samuel, je sais pas quel âge il avait. La tradition juive dit qu'il devait avoir autour de 12 ans. Mais bon, probablement. C'était un jeune, pré-ado ou ado. Et donc, vous voyez, Dieu n'hésite pas à parler aux jeunes. Certainement qu'il était plus réceptif qu'Élie. Et le message est dur, hein, quand même. Et ça devait être frappant pour lui de se dire, mais Dieu me met au courant. Ça veut dire que du jour au lendemain, Samuel est déclaré en quelque sorte par Dieu comme porte-parole de Dieu. Et c'est là que va commencer son ministère prophétique. Très jeune. Vous voyez que Dieu n'attend pas qu'on ait 50 ans pour nous parler. Et combien on a connu de ministères qui ont commencé à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Hein. Et il faut pas croire parce que vous êtes jeune que Dieu vous parlera pas ou que vous pouvez pas faire ceci ou cela. Si vous avez une bonne relation avec le Seigneur, votre ministère, il commence aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir 20 ans, 30 ans. C'est aujourd'hui. Vous savez, avec la Bible, c'est toujours aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui. Et n'attendez pas, c'est pas parce que vous avez 12, 13 ans, là je m'adresse à ma classe, hein, Dieu vous parle, Dieu est capable de vous parler et de faire démarrer votre ministère aujourd'hui. Si vous avez un ministère d'évangéliste, il va vous donner la grâce de témoigner dès maintenant. Si vous avez un ministère prophétique, il va vous le donner dès maintenant. Maintenant, ce sera à vous de bien le gérer, mais on va en parler après. Dieu, depuis longtemps, cherchait un homme pour conduire Israël. Et il a trouvé un très jeune homme, humble, obéissant et respectueux. Et ça, c'était indispensable, surtout pour un ministère prophétique. Disponible au service des autres. Moi, je le trouve hyper disponible quand même. Aller trois fois se lever pour demander s'il voulait quelque chose. Moi, j'aurais dit, bon, j'y suis déjà allée deux fois, ça suffit. La troisième fois, je serais peut-être pas allée. Disponible. Et puis, dans les petites tâches insignifiantes. Il a commencé par des petites tâches insignifiantes. Hein, nettoyer les lampes, nettoyer par terre, fermer les portes du temple. Depuis ses 4-5 ans. Ouvrir, fermer les portes, etc. Mais voilà, les gardiens ont souvent de l'avenir. Je ne vise personne, vous vous en doutez. Avec le Seigneur, je sais que nos gardiens, ils ont de l'avenir aussi pour le Seigneur. Il a commencé en servant le vieux prêtre. Et c'est l'image même du verset « À celui qui est fidèle dans les petites choses, je confierai des plus grandes ». C'est Luc 16, 10. Et si vous êtes jeune, et même si vous ne l'êtes plus, c'est un verset de base de la vie chrétienne. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai de plus grandes. Hein, je sais qu'à CFNA, c'est ce qu'il disait toujours à l'école biblique, hein, faut pas hésiter, commencez petit, à être fidèle dans les petites choses que Dieu vous confie. Parce que si on n'est pas fidèle dans les petites choses, un jour ou l'autre, on peut avoir un ministère important, mais un jour ou l'autre, ça va exploser. Et combien on est choqué de voir des ministères super qu'on a admirés, qu'on a aimés, et qui sont partis en lambeaux comme ça, du jour au lendemain. Mais pourquoi? Parfois, il y avait un manque de fidélité dans les petites choses, hein, ce que les Anglais appellent « character », ce qui n'est pas seulement le caractère, mais c'est tout l'être de la personne qui a besoin d'être soumis à Dieu. Donc, c'est bien de commencer jeune à être fidèle dans les petites choses. Une autre chose qu'on remarque dans ce récit, c'est que... Dieu connaît le nom de Samuel. Et connaître le nom dans la Bible, c'est hyper important. Parce que le nom, il a un sens, exaucé de Dieu, dans ce cas précis. Il le connaît personnellement. Et ce qu'il va lui confier va tester deux choses chez lui. Son courage et son humilité. Alors pourquoi son courage? Eh ben, mettez-vous à la place de Samuel. Vous avez vu le message qu'il a reçu? En plus, Dieu lui dit pas de le répéter à Élie. Il dit, voilà ce qui va se passer. Tout le monde va être choqué en Israël, mais voilà ce qui va se passer. Comment annoncer cette nouvelle à Élie? Et si Élie me pose la question, qu'est-ce que je fais? Mais moi, je le sers depuis des années. C'est mon ministère, c'est mon appel. Si je lui dis la vérité, ben, il va me fiche dehors, peut-être. Qui sait? Je suis jeune, j'ai pas la parole, quand même, j'ai pas vos chapitres. Si je lui dis, il va peut-être me renvoyer. Et qu'est-ce que je vais devenir? Ma mère m'a consacré à Dieu depuis tout petit. Tout est fichu, tout va s'écrouler. Il fallait du courage. Il savait peut-être pas qu'un prophète était déjà venu prévenir Élie avant. Ça, la Bible dit pas, donc on sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Si Élie le met à la porte, qu'est-ce qu'il en est de sa consécration à Dieu? Samuel attend. D'ailleurs, vous avez vu le matin, il dit rien, il attend. Son humilité, ben oui, parce que inversement, il aurait pu s'enfler d'orgueil. Il aurait pu se croire arrivé, surtout si jeune. Si jeune, Dieu me parle à moi. Alors ça fait des années qu'on n'entend plus la voix de Dieu. Ah, la Bible dit la voix de Dieu était rare en ce temps-là. Donc, vous imaginez là. Waouh, c'est pas trop tôt. Je ne supporte pas les fils d'Élie. Il y avait de quoi, hein. Il est temps qu'il dégage. Et puis, Élie, peut-être il le reprenait de temps en temps, Samuel. Ah, t'as pas fait ça bien, ou dépêche-toi de faire ça. Puis ses fils, ils sont au-dessus de tout, on leur dit rien. Alors maintenant, moi j'ai la prophétie avec moi, j'ai la voix de Dieu avec moi, on va voir ce qu'on va voir. Il aurait pu, hein, facilement. Et maintenant c'est mon tour. Mais c'est formidable, malgré son âge, il a énormément de sagesse, il attend. Il attend, et il faut même qu'Élie le menace pour qu'il parle. Élie le menace, hein. Vous avez vu dans le texte, Élie lui demanda, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ne me cache rien. Que Dieu te fasse ceci, qu'il ajoute cela. Alors, c'est une formule un peu d'imprécation. Tu attends de voir ce qui va t'arriver si tu ne me dis pas la vérité. Et bon, du coup, devant la menace d'Élie, il a l'humilité et le courage. Courage pour dire ce que tu as dit, et l'humilité pour pas en rajouter, et pour pas se rendre plus important qu'il n'était. Élie, sa réaction, c'est le fatalisme, comme d'habitude. Élie accepte le jugement de Dieu. Il se résigne. Il sait que Dieu est juste, qu'il a vraiment parlé à Samuel. Tout ça, ça fait pas de doute. Ça confirme la prophétie qu'il avait déjà eue. Dieu confirme sa parole, entre parenthèses. Vous voyez, là, il n'a pas dit qu'une fois. Il a envoyé un prophète et maintenant, il parle au travers de Samuel. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il va se soumettre en apparence quelque part, mais il se soumet pas par l'action. Il accepte la voix de Dieu, ok, tu Seigneur, t'as raison, mais il fait rien pour changer la situation. C'est comme si je vous dis, bah, vous avez une grosse tache d'encre sur le front, ah oui, c'est ennuyeux, vous l'enlevez pas. Alors ça semble ridicule dans la vie concrète, mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui va pas, mais bon, je fais rien. Et curieux, il ne se repent pas, et ça c'est étonnant. Il se repent pas, il dit Seigneur, je suis désolé, j'ai pas réussi, j'ai mal agi avec mes fils. Non. Ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu est juste. Élie dit, c'est le Seigneur qu'il fasse ce qui lui plaira. Alors voilà l'attitude à pas avoir. Quand Dieu nous parle sur quelque chose, alors ça fait très spirituel, ça fait très religieux de dire que la volonté de Dieu soit faite. Mais c'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande de la repentance, il demande qu'on demande pardon, il demande qu'il renvoie ses fils, qu'il les laisse pas continuer, etc. Dieu ne veut pas qu'on soit fataliste. Notre religion n'a rien à voir avec l'islam où il y a ce fatalisme en grande partie. Non, ce que Dieu veut, c'est une interaction avec nous. Qu'on fasse notre part. Lui, il fait sa part, il veut qu'on fasse notre part. Et qu'on travaille ensemble. Ah, ça, je comprends pas pourquoi. Souvent, je me dis, Seigneur, mais pourquoi tu veux qu'on travaille avec toi? Pour toi? J'aimerais tellement que tout puisse se faire sans que moi, j'ai rien à faire. Mais bon. Il aurait encore eu le temps de mettre de l'ordre dans sa maison. Mais depuis le début, on sent sa faiblesse et son fatalisme. Et quand Dieu parle pourtant, à chaque fois, c'est pour nous pousser à la repentance. Dieu ne parle pas juste pour nous informer. Dieu ne s'embête pas à nous donner des informations. C'est pas le journal du jour. Il nous parle pour nous pousser à la repentance. Et puis, verset 19, on voit Samuel grandissait, le Seigneur était avec lui, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Et ça a fait un peu de chemin dans ma tête, ça, je me suis dit, oh, attention. Attention à notre attitude parfois de dire « bah j'en prends et j'en laisse hein. ». Oui, Dieu m'a parlé, mais voilà. Et parfois, on est léger même avec certaines prophéties, une fois qu'on a bien vérifié qu'elles étaient bibliques et qu'elles étaient correctes. On est léger, on les oublie, on les note pas. Ou des prédications qui sont inspirées du Seigneur, et puis on oublie. Je crois qu'il faut qu'on prenne l'habitude, alors moi je parle à moi-même aussi, de davantage doter ce que Dieu dit. Que ce soit au travers d'un message, que ce soit au travers d'une prophétie, ou quelquefois quelqu'un qui va nous dire quelque chose, c'est important de le noter. Parce que le diable va tout faire pour qu'on l'oublie. Tout. Et c'est marrant, là, on aura des trous de mémoire. Noter, c'est parce que si Dieu a parlé, on n'est pas supposé laisser tomber à terre ses paroles. Alors bien sûr, parfois, on aimerait bien oublier ce que Dieu nous dit parce qu'on n'est pas d'accord. On sent que ça vient de Dieu, on sait comme Élie, on sent que ça vient de Dieu, on sait que c'est de Dieu. Mais si on pouvait l'oublier, ce serait aussi bien. Bon, ça c'est pas juste, parce qu'il dit bien, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Et ça m'a fait réfléchir. Soyons sérieux. Je sais que c'était dans les CCY au début, c'est Monique Cornaz, elle avait toujours son petit magnétophone quand il y avait des prophéties et tout. Bon, moi, on retenait ce qui était bon. Bon, tout n'est pas forcément juste dans une prophétie, c'est pas les prophéties de la Bible, mais c'est important de pas laisser tomber à terre les paroles. Je sais qu'il y a eu des paroles prophétiques qui ont été données en cette église, qu'on a retenues et qui nous ont toujours fait du bien. Puis il y en a d'autres, je suis sûre qu'on a dû oublier, et on a eu tort de les oublier parce qu'elles étaient certainement très bonnes. Et parfois, je les relis en triant des papiers, ou voilà. Je vous le dis en passant, ne laissons pas tomber à terre les paroles. Et si Dieu nous parle par un verset dans la Bible, ou peut-être quelqu'un qui va nous dire quelque chose, écrivons-le quelque part pour pouvoir s'en souvenir. Et parfois, vous savez, c'est même des non-chrétiens qui vont nous dire des choses. On sent que ça vient de Dieu, ça nous confirme quelque chose que Dieu nous a dit, et ça nous choque de la part de quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais Dieu nous parle, et ça vaut le coup de le noter. Et puis, on va retrouver ce fameux parallèle, vous vous souvenez, entre les fils d'Élie et Samuel. Là, on n'a plus Samuel officier, mais il grandissait. Alors, c'est le verset 19. « Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. » Et forcément, ça n'est pas passé inaperçu. Quand Dieu parle à quelqu'un, ça se voit. Et voyez-vous, la suite dit « Ainsi tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est du nord au sud, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. » Bon, ça a dû prendre du temps, hein, mais apparemment le téléphone, non pas arabe, mais israélite, a bien fonctionné. Et du nord au sud d'Israël, on a su qu'il y avait un prophète en Israël. Vous imaginez le soulagement des gens qui, depuis longtemps, n'avaient plus de parole de Dieu. Waouh ! Alors, pourquoi c'était important ? C'est parce qu'à cette époque, il y avait quelques rouleaux de la Torah, mais bon, c'était pas très disponible, hein, pour tout le monde. Donc, c'était indispensable d'avoir des prophètes qui pouvaient dire, voilà ce que Dieu vous dit. Des gens qui recherchaient le Seigneur. Aujourd'hui, c'est quand même pas la même chose. Dieu nous envoie de temps en temps des paroles prophétiques, mais on a sa parole pour vivre au quotidien. Donc, tout le monde a su très très vite qu'il était devenu prophète du Seigneur et que c'était pas une seule fois que Dieu lui avait parlé. C'était pas one shot. Le Seigneur continue de se révéler à Samuel dans le tabernacle de Silo. Et ça, c'est écrit au verset 21. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Alors, curieusement, il y a une petite insistance sur l'endroit où Dieu se révélait, à Silo, où était le temple. Je pense que celui qui a écrit ce texte insistait pour dire, voilà, Dieu parlait à Silo. Parce que les Philistins, quelques mois plus tard, vont raser la ville de Silo. Enfin, vont bien la détruire, en tout cas. Elle sera pas complètement rasée. Et le temple va être détruit. Les archéologues nous disent que vers 1150, moins 1150, la ville a eu visiblement une grande bataille, était partiellement détruite et le temple a été détruit. Donc je pense que l'insistance là, c'est pour rappeler que Dieu s'était manifesté et que Élie n'a rien fait. Voilà. Alors, le fait que Dieu parle au travers de Samuel et qu'il grandissait, etc., ça nous parle de croissance et de communion avec Dieu sur une base régulière. Dieu avait trouvé l'homme qu'il cherchait, grâce à son obéissance, et à la consécration, rappelez-vous, d'un couple en difficulté. Tout a commencé là. Comment une difficulté peut amener une énorme bénédiction? Grâce au sacrifice aussi d'une femme qui était pleine de reconnaissance à Dieu. Alors Israël est rassuré. Ceux qui honorent l'Éternel sont rassurés, du nord au sud d'Israël. On a un prophète maintenant, c'est merveilleux. Dieu est là. Dieu est là pour tout le pays, à cause d'un homme. Et ça me faisait penser au témoignage de Yom Kippour particulièrement, parce que une personne, quand il était malade, est venue lui parler de Jésus. Aujourd'hui, il a une église d'à peu près 1 million de personnes qui fonctionne. Parce que une personne, un jour, lui a témoigné de Jésus. Donc, vous savez pas à qui vous allez témoigner. Vous savez pas quelle est la personne en face de vous, ce qu'elle fera. Et c'est pour ça, continuons à être des ambassadeurs de Christ et à témoigner. On peut tomber un jour sur un futur Yom Kippour ou un futur Billy Graham. On le sait pas quand on témoigne. On le sait des années après. Mais je sais que, avec André, quand on avait témoigné un de ses copains d'école, sa femme s'est convertie la première, puis après lui. Et on a été très surpris de leur travail d'évangéliste. Et quand on a appris qu'ils avaient déjà amené au Seigneur une trentaine de personnes, des cousins, des amis, des voisins, etc., on se dit, waouh, on n'a pas perdu notre temps ce jour-là. Mais c'est comme ça que l'évangile se développe. Hein, Dieu agit parfois avec une toute petite personne qui a l'air de rien, mais qui va énormément témoigner. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, l'esprit de service, l'humilité et le courage. Eh ben, soyons-nous de cela et puis continuons à témoigner pour que d'autres se lèvent. C'était l'histoire de Samuel directement. Maintenant, on va arriver sur un chapitre. À vrai dire, je vais vous avouer que j'avais envie de sauter ces trois chapitres. Je me suis dit, oh, c'est pas directement relié à Samuel. Et finalement, en les travaillant juste pour moi, je me suis dit, non, mais il y a des tas de choses dans ce chapitre. On va les garder. Donc, l'année prochaine, on terminera avec l'onction de Saül et David. C'est pas très grave. Je pense cette fois-ci et la semaine prochaine, on va juste terminer ces chapitres qui sont très importants. Au chapitre 4, verset 1, ainsi, la parole de Samuel était pour tout Israël. Tiens, c'est marrant. Ça fait deux fois qu'il le dit. Et vous savez, dans la Bible, quand ils font ça, même quand un écrivain fait ça, il y a une raison. Et dans la Bible, il y a une double raison. C'est parce qu'il y a un message derrière. La parole de Dieu, la parole de Samuel était pour tout Israël. Alors, ça fait suite au fait que Samuel grandissait, le Seigneur était avec lui, il ne laissait tomber à terre aucune parole, tout Israël sait que Samuel était reconnu, etc. On l'a dit. Donc, Samuel est maintenant connu, reconnu comme prophète, écouté, et sa réputation est nationale. Donc, on établit bien ça. Et puis, d'un seul coup, verset suivant, comme ça. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour le combat. Ils dressèrent leur camp, nanana. Les Philistins dressèrent leur camp. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille. Le combat s'engagea. Israël fut battu. Wow, quel est le rapport? Comme ça, moi, ça m'a choqué. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est boum, boum. Parole de Samuel était pour tout Israël, et pan, nous voulons partir dans une bataille, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas où elle va, et puis elle est perdue, cette bataille. Évidemment, la Bible cherche toujours à nous faire réfléchir. Vous savez, quand on lit la Bible et qu'on voit des trucs comme ça, faut se dire, oh là, il y a une raison quelque part. Eh oui, Israël était content, il avait l'homme de Dieu. Ah, on est sauvés maintenant, on a un homme de Dieu, on peut faire ce qu'on veut. Ça leur suffit. Ils ne pensent pas, eux, être comme Samuel. Vivre à l'exemple de Samuel. Ils ont un homme de Dieu. Et je réfléchissais, vous savez combien on a vu d'églises, particulièrement aux États-Unis, parce qu'ici on n'a pas beaucoup de grandes églises, mais des églises énormes avec un pasteur qui avait une forte onction, qui était extraordinaire. Et puis ce monsieur meurt, admettons, hein, et en quelques mois, il n'y a plus rien. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, parce que souvent, je ne crois pas que ce soit la faute de cet homme, c'est simplement que les gens se disent, on a un homme de Dieu, il a le contact avec Dieu, Dieu lui parle, il nous parle de la part de Dieu, c'est bon, et il s'occupe pas d'eux, ils suivent. Et le jour où cet homme disparaît, et avec André, maintenant qu'on vieillit, hein, on se dit, ce qu'on souhaite, c'est que cette église, elle soit encore plus grande quand on sera plus là. Parce que c'est chacun de nous qui avons la relation avec le Seigneur. Hein? Et malheureusement, Israël était comme ça, puis on est humain, hein. On a l'homme de Dieu, il nous parle la part de Dieu. Donc pourquoi nous chercher Dieu? Pourquoi nous être humbles et soumis comme lui? Pourquoi? Mais lui, il le fait pour nous. C'est ce qu'a fait la France pendant des années. Hein. Il y avait les ordres religieux qui priaient, et puis les seigneurs qui faisaient la guerre. Chacun son boulot. Donc Israël a un homme de Dieu capable de leur parler, mais le problème, c'est que théoriquement, l'homme de Dieu, il est là pour qu'on le consulte. Nous, on a la Bible, hein, en priorité. Ça n'empêche pas de consulter le pasteur ou les frères et sœurs, mais notre première priorité, c'est de consulter la parole de Dieu. Donc cet homme était là pour qu'on le consulte. Et quand même, on va pas livrer bataille sans consulter Dieu. Mais on risque sa peau. Comment ça se fait? Alors quand on connaît bien la Bible, on voit que David, plus tard, à chaque bataille, allait consulter Dieu. Et moi, ce que j'aime chez David, c'est qu'une fois Dieu lui dit... bouge pas, emmène le groupe de louanges, mets-le en premier, et puis chantez, et puis vous allez voir ce que je vais faire. Puis une autre fois, il dit, quand vous entendrez mes pas derrière les mûriers, etc. Enfin voilà, à chaque bataille, il y avait une stratégie de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font là à engager la bataille? Hein, la parole de Samuel était pour tout Israël, Israël sort la rencontre des Philistins, sans transition. On ne consulte personne. Alors que maintenant, ils avaient un homme de Dieu. Donc vous voyez, faut lire entre les lignes dans la Bible. Hein. C'était pas normal. Ils vont à la bataille sans rien demander. Alors, pourquoi est-ce qu'on consulte Dieu avant une bataille? Pour connaître la stratégie de Dieu, je viens de le dire, parce qu'elle est spécifique à chaque bataille. Alors, je parlais cette semaine avec, dimanche dernier, avec quelqu'un dans l'église qui me disait, on nous accuse d'être binaire. Et je dis, mais justement, quand on connaît la Bible, on s'aperçoit que Dieu n'est pas, les chrétiens n'ont pas à être binaires. C'est pas en, tout n'est pas en blanc et noir. La preuve, c'est qu'avec David, chaque bataille, c'était différent. Et chaque bataille que nous, on affronte dans notre vie, c'est différent. N'essayons pas de reproduire les schémas d'hier pour aujourd'hui. Si ça se tombe, ça marchera pas. Peut-être ça peut marcher aussi, mais ça, y a de grandes chances que ça marche pas. Parce que pour chaque bataille à laquelle on fait face, Dieu a une stratégie spécifique. Ah, c'est compliqué ça. Alors je peux pas tout le temps reproduire la même chose, non. Pourquoi? Parce que Dieu veut une relation. Il veut qu'on parle avec lui, qu'on travaille avec lui. Oh, c'est exigeant, hein. C'est quelquefois lourd, hein. Et pourquoi il faut consulter Dieu? Pour pouvoir se préparer en conséquence. Où? Quand? Comment? Qu'est-ce qu'on doit prier? Alors à l'époque, il y avait des sacrifices à faire, il y avait une alliance à renouveler, et puis choisir le bon moment pour attaquer. On n'attaquait pas n'importe comment. Hein. Une fois, Dieu disait « attendez », une fois, il disait « allez-y », une autre fois, il attendait qu'il y ait un orage. Attendre le bon moment. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais Dieu avait promis Canaan, il avait promis de chasser leurs ennemis. Il avait déclaré qu'il leur laissait aussi des ennemis pour qu'ils apprennent à lutter. Et qu'ils apprennent aussi à faire des choix. Et ça, vous trouvez ça dans Juges 3, versets 1 et 2. C'est très important. Il avait promis la victoire, mais il avait dit aussi, je vous laisse des ennemis pour vous appreniez à vous battre. Pour que les générations qui n'ont pas connu la guerre apprennent à se battre. Donc il veut qu'on apprenne à se battre. Et là, je sais qu'on a tous des ennemis en face de nous. Des soucis de travail, de famille, etc. De maladies. Et il faut apprendre à se battre. Oh, ce serait tellement bien s'il n'y avait pas ça dans la vie chrétienne. Moi, ça me plairait. Mais bon, il faut se battre. On n'a pas le choix. Dieu veut qu'on apprenne à se battre. Et pour se battre, il faut consulter l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel. Et puis, c'est la défaite. Alors, on va lire les versets 3 et 4. Le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël, c'est pas n'importe qui, dirent, pourquoi le Seigneur nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins? Ou, il y a une autre traduction qui dit, nous a-t-il fait battre par les Philistins? Ah, oh, mais ça, c'est une bonne question. Chaque fois qu'on a un échec, je trouve que c'est bon de se poser la question. Alors, enfin, là, les anciens du peuple, chapeau, ils se posent une bonne question. Parce que, quel que soit l'échec qu'on vit, qu'il soit personnel, familial, au travail, c'est important de se poser des questions. Alors, attention. C'est peut-être le seul moyen d'apprendre, mais il s'agit pas de se culpabiliser. Hein. On est trop nombreux, peut-être les femmes aussi sont plus tendance à faire ça que les hommes, mais oh là là, j'ai eu un échec, c'est de ma faute, je suis pas assez bien. Et puis on se culpabilise. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus. Et là, hommes et femmes, on doit être à égalité. Culpabiliser les autres. J'ai eu un problème. Oh, c'est de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est la faute, alors, de l'église, du pasteur, du maire, des voisins, de ma famille inconvertie, etc. Oui, pourquoi pas. et ça, c'est pas une solution. Ça ne fait qu'empirer la situation. Se poser la question sur un échec en se culpabilisant ou en culpabilisant les autres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, chaque fois que vous vivez un échec, pensez à ça. C'est pas la volonté de Dieu de se culpabiliser et de culpabiliser les autres. C'est pas le but. Mais il faut quand même essayer de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. Et en général, je vous assure, une analyse simple hein, et objective permet de comprendre et d'éviter un autre échec. On peut aussi poser la question au Seigneur. Non pas pour récriminer, « Ouais, Seigneur, j'étais sûre que tu m'aiderais, puis tu m'as pas aidé. Pourquoi, Seigneur ?» Non, pas dans cet esprit. Mais pour qu'il nous parle. « Seigneur, ton serviteur écoute. » Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Éclaire-moi. Montre-moi, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est allé de travers? Est-ce que je peux changer quelque chose? On peut demander conseil aussi à des gens expérimentés qui peut-être vont mettre le doigt sur nos failles. Je vais vous donner un exemple. On a eu dans l'église il y a quelques années, certains l'ont connue, la reconnaîtront peut-être, une femme géniale qui préparait le concours d'infirmière et elle échoue à l'oral une fois, deux fois, trois fois. Il y a quelque chose qui me trottait dans la tête et j'aime pas corriger. Et je sentais que le Seigneur voulait que je lui parle et alors j'ai mis des gants et je dis, écoute, tu sais, j'ai peur que tu réussisses pas l'oral, parce qu'elle était super intelligente, j'ai pas de doute, parce que ton attitude choque les examinateurs. Essaie de revoir ton attitude, ton comportement. C'était pas très agréable, mais bon, grâce à Dieu, elle a bien reçu. Et elle a travaillé là-dessus. Et devinez quoi, la fois suivante, elle l'a eu. Et je crois que parfois, il y a des échecs qui sont motivés, mais il s'agissait pas de la culpabiliser, de dire tu n'es pas une bonne chrétienne parce que tu... Non, non. Mais essayons de voir les faits et de dire est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut changer sans se culpabiliser. J'insiste. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer pour réussir la prochaine fois? Je me souviens que nous-mêmes, quand on a eu des difficultés dans l'église, on a fait venir, bon, vous avez l'occasion de le rencontrer, je pense qu'il reviendra prêcher, le psychologue chrétien, pasteur Jacques Poujol, et on a écouté ce qu'il avait à nous dire. Oh, il s'est pas privé, hein. Dans vous, ceux qui le connaissent savent qu'il se prive pas. Il vous balance tout ce qu'il a à dire, mais il a beaucoup d'amour quand même, et ça nous a aidés. Je me souviens d'un pasteur, que c'est pas très juste ce qu'il avait fait d'ailleurs, mais qui avait dit « De toute façon, ça recommencera !» On avait peur, donc on a dit à Jacques Poujol « Il faut qu'on change quelque chose pour pas que ça recommence !» Et il nous a donné des conseils très avisés. Et puis on a changé un certain nombre de choses. Parce que on n'a pas envie de revivre des échecs. Hein. Donc il faut mieux qu'on nous dise la vérité pour pas reproduire la fois suivante. Et la parole de ce pasteur, si elle était peut-être pas juste, mais elle était probablement vraie. Si nous, on n'avait rien changé, on aurait probablement reconnu le même style d'échec. Donc, il faut pas hésiter à demander conseil. Et pas avoir peur. Parce que c'est pour nous corriger, et c'est surtout pour nous éviter un deuxième échec. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, sur le coup, ça fait mal, c'est pas très agréable. Mais, ça vaut le coup quand même d'éviter un deuxième ou un troisième échec. Bien sûr, attention aux conseils qu'on vous donne. Je répète toujours, hein, il faut que ça fasse écho dans votre cœur. Vous n'êtes pas là pour vous faire juger par les gens. Non, c'est simplement l'idée de dire qu'est-ce que tu peux faire pour éviter un deuxième échec. Et il faut qu'il y ait un écho dans votre cœur. Oui, c'est juste. Je pense que cette sœur qui voulait être infirmière, il y a eu un écho. Elle a reconnu que c'était juste. Sinon, elle l'aurait pas corrigé, je pense. Alors maintenant, j'ai quand même pensé à un troisième cas. Parfois, on n'a pas de réponse. Il semble que Dieu nous dit rien. On lit la parole de Dieu, on reçoit rien. Mais pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce problème? Et qu'est-ce que j'ai fait? Et on demande conseil, les gens savent pas, ou disent des sottises. Et on est embêté. Alors je pense, le conseil que je me donne à moi-même dans ces cas-là, c'est examinons notre relation avec Dieu. Et comme Job, disons, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je comprends pas où j'en suis. T'as pas l'air de me montrer quelque chose. Ça peut être une épreuve un peu comme celle de Job. Mais commençons pas par celle-là, hein. Juste à la fin, quand on voit qu'on n'a pas eu de réponse. Et puis on s'en remet au Seigneur avec l'aide de la prière, l'aide des frères et sœurs aussi. Et puis on attend et on prie courageusement. Alors, on n'a pas forcément toujours la réponse, mais c'est pas le cas le plus courant. Nous avons des amis chrétiens de très longue date qui ont vécu des échecs à répétition. Mais vous leur ferez pas analyser la situation. Mais c'est dommage, ils sont choux comme tout. Mais il n'y a pas moyen de dire, écoute, si à chaque fois tu vis ce genre d'échec, c'est peut-être parce que... Ah non, c'est le diable, et puis voilà, c'est réglé. Bon, c'est dommage, parce que on est convaincus, on les connaît bien, ils ont un cœur en or, que leur situation changerait s'ils mettaient en place d'autres dispositions. S'ils analysaient le problème en se disant, voilà, il y a ça, il faut qu'on change, pour éviter de retomber dans l'échec. Et à chaque fois, vous savez, c'est comme les petits-enfants. Je ne sais pas si vous avez observé, à la maison, c'est toujours un peu ma hantise avec Lucie, mais ça a été pareil avec tous. Ils ouvrent un tiroir, la main dedans, puis avec l'autre main, ils referment le tiroir. Ah ! Et si vous venez pas, ils continuent à appuyer sur le tiroir et à hurler parce qu'ils se font mal. Eh ben, vous savez, parfois, on est comme ça. On veut pas analyser qu'il faut pas laisser le doigt quand on veut fermer le tiroir. Et à cet âge-là, ils peuvent pas l'analyser. Ils réalisent pas que si je laisse mon doigt ici, en fermant le tiroir, je vais le coincer. Et ça fait mal. Et quand on veut pas analyser nos échecs, on est un peu comme ça. Il faut analyser nos échecs. C'est-à-dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cet échec? Que ce soit dans le relationnel, que ce soit le familial, le personnel, le spirituel, le professionnel aussi. Ce qui n'exclut pas le fait que parfois ça n'a rien à voir, mais au moins il faut l'analyser. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu nous demande de réfléchir avant de construire quelque chose, de s'examiner soi-même, par exemple avant la Sainte Cène, Hein, il le dit. Ne pas nous précipiter avant d'imposer les mains. Ne pas nous appuyer sur notre sagesse humaine, mais reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies. Remettre notre sort à l'Éternel. Enfin, vous connaissez tous ces versets. C'est ça aussi. Hein, analyser la situation, réfléchir, s'examiner, etc. Et en un mot, rester dépendant de Dieu. Ça, c'est franchement un gros mot. Surtout chez les Français, on aime la liberté. Mais la vraie liberté, c'est de faire ce pour quoi on est fait et de dépendre de Dieu. Mais bon, on n'aime pas toujours ça. Hein. Et donc, les anciens d'Israël ont raison. Il faut se poser la question. Alors, pourquoi ils ne la posent pas à Samuel? Vous voyez bien, il y a un contraste là. La parole de Samuel était pour tout Israël. Ils se battent, ils se posent la question. Ils vont pas le voir. On va savoir. Bon, donc ils vont pas le voir. Ils répondent eux-mêmes. Ah, ça, c'est pas bête, ça. Ils répondent eux-mêmes et très vite à leurs questions. Samuel aurait déjà pu leur dire ce qu'il leur dira plus tard. Vous allez voir, 4 chapitres plus tard, Samuel leur dit « Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. » Après un échec, c'est le numéro 1. « Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. » Il leur dira 3 chapitres plus tard, mais là, ils vont pas lui demander son avis. Bon, ok. Verset 3. Chapitre 7, verset 3, on n'a pas le temps de le lire, on le verra la prochaine fois. Ils avaient une réponse toute prête. Chapitre 4, verset 3. Le peuple entra au camp, les anciens d'Israël dirent, pourquoi le Seigneur nous a-t-il battus aujourd'hui? Allons prendre à Silo le coffre de l'Alliance du Seigneur, qu'il vienne parmi nous et qu'il nous sauve de la main de nos ennemis. Eh ben voilà, j'ai la réponse. Ça a été vite fait. Leur pensée est complètement imprégnée de la façon de voir de leur environnement. Ah, et là, nous, on est en danger. Hein, parce qu'on est bombardé par les médias tout le temps. Et notre pensée est forcément influencée par la façon de voir du monde. Alors, je vous donnerai pas des exemples, je suis sûre que vous en avez. On est imprégné de cette façon de voir du monde. Du coup, si on répond nous-mêmes à nos questions sur nos échecs, on a de grandes chances de se planter et de refléter la façon de voir de notre environnement. Alors en France, ce sera peut-être un peu différent du Japon ou des États-Unis, mais on va refléter notre environnement. Et nos voisins païens, eux, c'était leurs voisins païens aussi. En fait, ils se tournent complètement vers la façon de penser qui est inhérente à la nature humaine et qu'on rencontre de tout temps et pas seulement en Afrique, hein, mais partout. On est tous à égalité en ce domaine. C'est l'idolâtrie et le fétichisme. Alors évidemment, en France, ça se voit beaucoup moins. Mais c'est pareil. Et on va transférer la foi en Dieu vers un objet qui finit par être invoqué à la place de ce qu'il doit représenter. On change, au lieu de mettre notre foi en Dieu, on met notre foi dans un objet qui représente Dieu pour nous. C'est comme ça que Paul va écrire aux Romains, on change la vérité de Dieu en mensonge. Parce que l'arche de l'Alliance, c'était la vérité de Dieu. Mais on va la changer en mensonge. Ils ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur, Romains 1, verset 25. Alors en effet, ils n'avaient pas complètement tort parce qu'ils ont traversé le Jourdain à sec, derrière l'arche. Alors on est rentré dans le pays promis, derrière l'arche. Et puis, ils avaient fait le tour, vous vous souvenez de Jéricho? Avec l'arche. Les murs étaient tombés. Donc, ils vont attacher à l'objet la foi qu'ils devraient mettre en Dieu. C'était l'Arche de l'Alliance qui accompagnait leur victoire. Mais de là à attribuer à l'Arche de l'Alliance la cause des victoires, c'est plus embêtant. Alors, on se dit, oh non, mais moi, je ferai pas ça. Non. On est au 21e siècle, on est en France. Colin Durkart a raconté une histoire qui me plaisait beaucoup. Alors, je sais pas, peut-être Elsa la connaît mieux que moi, parce que je pense qu'elle a dû l'entendre plusieurs fois. Mais c'était l'histoire d'un grand évangéliste qui avait énormément de guérisons dans son ministère et qui doit partir dans un pays d'Asie. Alors, je sais plus si c'était la Corée, je sais plus trop. Et il y a un couple qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui a énormément économisé dans ce pays, donc, pour aller écouter cet évangéliste pour être guéri. Il avait une maladie incurable. Le monsieur, je crois. Ça te dit rien, Elsa? Non. Et il l'avait raconté quand on avait fait la recollection. Et ce couple mettait tout son espoir dans le fait que cet homme prierait pour eux. Et ils étaient sûrs que Dieu les guérirait. Mais ils avaient cette foi dans leur cœur, hein, authentique. Et puis, bon, l'évangéliste arrive. Je sais pas ce qui se passe le jour de la réunion. Il y avait énormément de monde, énormément de guérisons. Et c'est un petit jeune. On y est aujourd'hui avec les jeunes, là. 16-17 ans. Hein? Hein, tu crois plus jeune que ça? sais plus, enfin un petit jeune, qui va prier pour ce monsieur. Au moment de la prière. Mais alors là, le couple, il est choqué. On n'a pas fait tout ce voyage et toutes ces économies pour que ce soit un gamin qui prie pour nous. On est venu pour cet évangéliste. Il a un don reçu de Dieu, et c'est vrai. Un don de guérison, etc. Et ils rentrent dans leur hôtel, parce qu'en plus, les pauvres avaient dû se payer l'hôtel. Furieux, mais furieux de chez furieux. Ils écrivent une lettre à l'évangéliste. Tellement, mais bon, c'est vrai, ils ont fait plein de sacrifices pour venir. Et puis, je crois que c'est le lendemain, ils s'aperçoivent que le monsieur, il est guéri. Et ils écrivent une autre lettre à l'évangéliste. C'est comme ça qu'il l'a su. C'était un collègue de Colin Urquhart. Et il a su qu'ils avaient été guéris. Et donc, ils ont envoyé les deux lettres, je crois, pour qu'ils voient. Incroyable. Parce que, voyez, notre nature humaine, c'est de s'attacher à des choses, à des gens, et oublier que c'est Dieu qui guérit. C'est notre nature humaine. Donc, il faut qu'on fasse, on fasse attention. Attention de pas attribuer la guérison ou la victoire au fait qu'un tel a prié pour moi. Moi, je pourrais le faire, parce que dans ma famille, on a eu 3 miracles. C'est la même personne qui avait prié. Elle avait un don de guérison. Bon. Mais je fais toujours bien attention quand je rends mon témoignage que c'est Dieu qui nous a guéris. Et qu'il est capable de guérir au travers de n'importe qui. Ou bien parce qu'on est allé dans un endroit donné où il y avait eu le réveil. Alors? C'est sûr que des endroits où il y a eu le réveil, il y a eu beaucoup de miracles. Mais c'est pas ça qui nous guérit. Ou parfois, on va tout focaliser sur la Sainte Seine. Parce qu'il y a beaucoup de guérisons pendant la Sainte Seine, je le sais. Ma mère a été guérie au cours de Sainte Seine. Je sais que c'est vrai. En plus, c'était un fibrome, ça se voyait. Hein. Comment s'appelle un truc qu'on a là? Un goitre, pardon. Elle a été guérie d'un fibrome à un autre moment. Et donc, ça se voyait. Hein. Mais elle a été guérie au moment de la Sainte Seine. Mais attention, on va pas focaliser toute notre attention sur la Sainte Seine. Ou le baptême. Il y a des gens qui ont été guéris en rentrant dans les eaux du baptême. Ça, je sais que c'est vrai. Mais c'est pas ça. Voilà, vous voyez, comment très vite on peut dire, ben voilà, c'est le baptême qui... Ou bien parfois, c'est j'ai jeûné 3 jours. Alors le truc, tu jeûnes 3 jours. C'est très bon de jeûner 3 jours. C'est pas un truc. C'est Dieu qui guérit au travers de ma soumission, du temps que je passe avec lui, etc. Ou bien la Bible. Quand je faisais l'expo Bible, il y a un monsieur qui est venu et qui voulait une Bible, une grosse Bible, comme ci, comme ça. Je lui dis, waouh, je pensais que c'était pour y voir bien et tout. Non, c'était pour protéger sa maison. D'accord. Bon, mais oui, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui exauce, c'est Dieu qui parle, et qu'on lui donne à lui la gloire et la reconnaissance. Et même nous, chrétiens évangéliques, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Attention. Bien sûr, qui est-ce qui va accompagner l'arche dans la bataille? Ophni et Phiné, les deux fils d'Élie. Tandis que Samuel, lui, reste sans doute à Silo, avec la parole de Dieu, qu'on n'a jamais demandé. La parole de Dieu était là, il l'avait certainement prête à la donner, mais il n'a pas donné de force. Quelle sagesse. Moi, j'aurais peut-être essayé de dire « Oh, écoutez-moi, vous n'êtes pas venu la chercher, vous ne l'aurez pas. » Et les fils d'Élie vont partir avec l'arche à la bataille. L'idée était simple. Elle était simple, mais elle était quand même un peu tordue. Ils partent avec l'arche, mais ils ne partent pas avec Dieu. Et ils se disent « Avec l'arche, on ne peut pas perdre la bataille. » Parce que Dieu va pas se déconsidérer quand même. Tout le monde sait que c'est le signe de la présence de Dieu. Donc, si on perd la bataille, de quoi il aura l'air, Dieu? Ben, vous savez, ça lui fait pas du tout peur, Dieu, ça. Il pensait que Dieu était obligé de leur donner la victoire, tu sais, vous savez, genre gagnant-gagnant, pour sa gloire et sa réputation. Mais Dieu n'a pas peur de perdre sa réputation, parce qu'il a bien d'autres moyens de la récupérer. Et vous allez voir, il sait redresser les choses. Mais voyez, ça c'est très mauvais, hein. Entraîner Dieu, lui tordre le bras, le manipuler pour dire « tu peux pas faire autrement que m'exaucer ». Et on a tous fait ça un moment ou l'autre de notre vie chrétienne, hélas. On est humain, imaginez, on a tous fait ça. Mais ça marche pas, ça marche pas. Dieu est bien capable de défendre sa gloire, même si elle repose sur l'arche. Ils se sont dit « oh, mais il sera complètement déconsidéré par nos ennemis ». Mais on peut pas manipuler Dieu. Dieu va savoir se défendre et va défendre son honneur lui-même, vous allez voir, même si les apparences vont donner la victoire à l'ennemi. Le peuple trouve l'idée tellement géniale, ça aussi, hein. On dit, il est écrit que la clameur, quand il voit l'arche arriver, Ophni et Phiné, ces grands hommes de Dieu, bien sûr, voilà, que Dieu a rejeté depuis longtemps, ils portent l'arche. C'est marrant parce que Dieu bouge pas là, hein. Il aurait pu les tuer là, mais laisse faire. Attention, quelquefois Dieu nous laisse faire, hein, soyons prudents. Et puis, ils font une clameur de joie, ils reprennent courage. Ouh, je sens que Dieu m'a redonné du courage, je sens la puissance de Dieu est revenue au milieu de nous, je sens qu'on va gagner. Et alors, ils se remontent le bourrichon comme ça, hein. Et puis, ils crient, hurlent de joie, à tel point que les Philistins commencent à baliser. Qu'est-ce qui se passe dans le camp ennemi? Puis, il y en a un qui vend la mèche, qui dit, bah, ils ont ramené, vous savez, leur coffre sacré, là, la présence de leur Dieu. Avec tout ce qui s'est passé en Égypte, les gars, on va dérouiller. Rappelez-vous les plaies. C'est marrant parce que la Bible dit qu'ils étaient au courant. Hein. Ça avait dû faire du bruit, l'histoire de l'Égypte. D'autant plus que les Philistins avaient eu des problèmes avec les Égyptiens. C'est l'histoire qui nous apprend ça. Donc, ils connaissaient l'histoire. Ils disaient, oulala, on va dérouiller. Là, ça va être terrible. Soyez courageux, Philistins, vous laissez pas faire. Alors, la clameur ébranle la terre, mais croyez-moi, le nombre de décibels n'est pas un signe de la présence de Dieu. Ça, Colin Durkart le dit souvent aussi. Les tremblements que déclenchent les décibels en faisant vibrer notre corps ne sont pas un signe de la puissance de Dieu, mais un phénomène purement physique et scientifique. Si vous vous mettez à côté d'un baffle avec des basses très fortes, vous allez vibrer, mais c'est pas la présence de Dieu. Et je crains que souvent, on joue là-dessus dans les concerts chrétiens, malheureusement, pas tous, et pas toujours volontairement, il faut pas accuser qui que ce soit, mais attention de pas confondre les vibrations que créent les basses, hein, avec, quelquefois on tremble quand la présence de Dieu descend pour de bon, hein. C'est vrai, on tremble. Moi, j'ai déjà vécu, on l'a déjà vu, je me souviens quand la présence de Dieu était descendue se rendrait à la suite d'une réunion dans mon église, il pouvait plus bouger. Je me suis demandé ce qu'il avait, parce qu'à l'époque, on connaissait pas beaucoup ces choses-là. Il était immobilisé sur sa chaise, on pouvait plus sortir de là, le pasteur a dû attendre que ils reprennent vie pour sortir. Et c'est puissant, vous savez ce que le Saint-Esprit peut faire. Mais essayons pas d'imiter ça avec des décibels. Et ça vous fera vibrer aussi. Il paraît qu'on peut mettre un œuf devant les... Vous savez, dans les rêves parties, là, on peut mettre un œuf juste devant les baffles et ils deviennent durs. Ouais, sacrée vibration. Hein. Mais c'est pas la présence de Dieu. Donc, attention de pas confondre ces choses-là avec des phénomènes purement physiques et scientifiques et mesurables. Mais à côté de ça, les décibels n'empêchent pas la présence de Dieu si elle est là. Hein, je veux dire, quand il y a des milliers de gens qui adorent Dieu, il y a forcément un certain nombre de décibels. Mais ça ne crée pas la présence de Dieu et ça ne la remplace pas quand elle y est pas. Eh ben, on va trouver exactement le même problème avec l'arche. Elle va pas remplacer la présence de Dieu quand elle y est pas. Les païens, eux aussi, ils ont la même réaction qu'Israël, c'est inquiétant. Ils identifient Dieu avec l'arche. Dieu est arrivé au camp, quel malheur pour nous. Pour eux, c'est normal, ils n'ont pas connu autre chose. Leur foi est placée dans des statuettes, des gris-gris, des fétiches, des rites. Bon, on connaît assez bien la religion des Philistins. Donc, quand on pense comme les païens, attention, hein, quand on est bien d'accord sur la même façon de faire, ça pose question. C'est en méditant la Bible et en priant que Dieu va transformer le renouvellement de notre pensée. Donc, faisons attention. Les païens se souviennent, je l'ai dit, de la sortie d'Égypte. L'histoire devait donc être racontée chez eux aussi. Mais ils s'encouragent à combattre avec plus de zèle. Ils n'ont pas peur quand même, hein. Parce qu'ils pensaient que le Dieu, bon, bah, il était peut-être un peu fort, mais bon, eux, ils auraient le dessus. C'est orgueilleux. Savoir ce que Dieu a fait, ça suffit pas pour changer leur vie. Et ça fait mal au cœur. Combien de gens savent ce dont Dieu est capable? Mais c'est pas pour autant que leur vie va changer. Et puis, bien sûr, c'est la bataille. La défaite est cuisante. Les fils d'Élie meurent. L'arche est prise. Élie attend des nouvelles de la bataille, toujours dans la même passivité. La Bible dit son cœur tremblait pour l'arche de Dieu. Lui, il savait très bien que le coffre en lui-même n'assurait pas la victoire. Donc, il n'était pas rassuré. C'est quand même terrible, il savait tout, cet homme. Pourquoi il disait rien? Il les avait laissés partir avec l'arche, quand même, il pouvait dire non. Il savait très bien que le coffre en lui-même n'assurait pas la victoire, mais il est trop faible pour dire quelque chose. L'idolâtrie, c'est mettre sa confiance en autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. Ça peut être nous-mêmes aussi. Non seulement ça mène à la défaite, mais l'idole, et ça je le dis souvent, notre idole, elle nous est cassée sur la tête ou elle est volée. Et les prêtres de cette idole sont anéantis. Chaque fois qu'on rentre dans l'idolâtrie, le diable prend notre idole et nous la casse sur la tête. C'est-à-dire ce en quoi on s'est confié va nous trahir, le roseau qui perce la main. C'est dommage qu'Élie tremblait beaucoup plus pour l'arche que pour la gloire de Dieu ou le peuple de Dieu. Mais c'est en entendant parler de la prise de l'arche qu'il tombe à la renverse et qu'il meurt. C'est ce point-là qui va le faire mourir, la Bible le souligne très bien. Quand il entend dire « L'arche est prise, il tombe à la renverse et il meurt. » Pourtant, ses fils étaient morts, mais c'est pas ça qui l'a le plus choqué, c'est l'arche est prise. Et la belle-fille d'Élie va dire quelque chose de très important. Elle met au monde, sous le choc, elle accouche, ce qui est tout à fait logique, et elle va nommer cet enfant Ichabod, la gloire est bannie d'Israël. Et elle dit vrai. Malheureusement, elle confond quelque chose. Elle confond l'image, la représentation, le symbole de la gloire et la véritable gloire et la véritable présence de Dieu. En fait, la gloire de Dieu, elle était partie depuis longtemps. Et c'est parce que la gloire était partie que l'arche a été prise, et non pas parce que l'arche est prise que la gloire est partie. C'est ça, marcher dans l'autre sens. La gloire de Dieu avait quitté le peuple depuis des années. Du coup, que l'arche soit prise, voilà, c'était secondaire. Et non pas l'inverse. Mais pour elle, l'arche est prise, alors la gloire de Dieu a quitté le pays. La gloire de Dieu était partie depuis longtemps. Et c'est pour ça que le coffre a pu être capturé, parce que la gloire de Dieu n'était plus là. Oui, je m'arrête. Dieu n'était plus honoré depuis longtemps, et honorer, c'est donner du poids. On ne donnait plus de poids à Dieu. Et alors là, il y a un commentateur qui a dit quelque chose de très drôle. Kabod, c'est la gloire, le poids qu'on donne à Dieu, la gloire. Et c'est vrai que tous les gens qui ont senti la gloire de Dieu très fortement ont eu cette impression d'écrasement, de poids. Mamadou Karambéry l'explique très bien. Et ils disaient, la gloire de Dieu ne pesait plus, donc il n'y avait plus ce poids sur l'arche, sur le peuple, mais ce sont les Philistins qui vont être cabodés par Dieu, qui vont avoir la main de Dieu qui va peser lourd sur eux. La cabode a quitté le peuple, mais elle va caboder les Philistins, elle va s'apesantir. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Les Philistins vont voir que le Dieu qui croit avoir vaincu va être bien plus dangereux que leur idole, que leur petite idole, qui, soi-disant, est vainqueur, mais qui va tomber raide devant l'arche, qui va même en perdre la tête et les mains. Très, très symbolique et très humoristique. Vous savez, Dieu a beaucoup d'humour. Son peuple ne l'avait pas écouté, mais lui, il va défendre sa gloire, il va défendre son honneur, sa réputation, d'une telle manière qu'au bout de 7 mois, les Philistins disent, enlevez cette arche, on n'en veut plus. Un petit peu comme avec Jésus, vous savez, avec les cochons, là. Jésus a fait des miracles, mais chassez ce Jésus, on ne veut plus le voir. Alors que c'était peut-être l'occasion, justement, pour se repentir et s'approcher de Dieu. Mais les gens font des choix. Voilà, que Dieu nous bénisse dans cette semaine, et surtout par rapport à nos échecs, passés ou présents. Qu'on puisse peut-être faire le point avec le Seigneur, et surtout pas rentrer dans la culpabilisation de soi ou des autres. Mais vraiment, je vous invite, par rapport à tous vos échecs, et on le fait avec les nôtres aussi, chercher le Seigneur, analyser avec le Seigneur pour voir s'il y a des choses qu'on peut changer, qu'on peut ne pas reproduire. Et derrière, on aura des victoires. Consolez-vous, le peuple après, il a eu des victoires. Parce que Samuel l'a obligé à analyser les choses comme il faut. Donc, que le Seigneur nous éclaire et qu'on arrive à écouter sa voix. C'est pas facile. On est tous pareils dans ce domaine. On a du mal à écouter la voix de Dieu à cause de toutes les voix parasites. Mais Seigneur, je te prie vraiment que pour chacun d'entre nous, tu nous aides à écouter ta voix. Qu'on soit très jeune ou beaucoup plus âgé, que Seigneur, tu nous apprennes à écouter ta voix, tu nous aides, vraiment, affine notre oreille pour qu'on t'entende et qu'on puisse corriger dans nos vies tout ce qui nous a amené à des échecs, quels qu'ils soient. Qu'on soit prêt, Seigneur, à les corriger pour avoir la victoire. Rentrer dans une vie de victoire. Seigneur, et pour ceux qui n'ont pas de réponse, qui sont dans la situation de Job, tu bénis, tu encourages, tu fortifies. Parce que nous savons qu'un jour ou l'autre, on pourra dire, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Merci, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous. Amen.